Bon, alors écoute, merci. Ah oui, ça c'est un micro juste pour...
Oui, non, c'est pas un micro pour... pas un micro normal.
Donc je vais devoir parler plus fort pour que tout le monde m'entende. Est-ce que tout le monde entend, c'est bon? Oui. La salle est... L'acoustique de la salle est excellente. Vraiment.
C'est alors, la première fois qu'on me dit ça.
Non, je pense que ce panneau-là, c'est intéressant. Oui, donc merci infiniment Claire pour m'avoir invité. Je suis ravi d'être avec vous. Il y a quand même comment dire des liens profonds finalement qui unissent Belgique et Québec en fait. Donc je vais vous parler de la communauté, ce qui fait lien au temps de l'incertitude informationnelle. Et vous ferez des connexions avec la question de la confiance. Je ne sais pas, je pense pas que je vais aborder frontalement. Je ne vais pas parler peut-être en termes de confiance, mais je pense que ce dont je vais parler peut se prolonger dans ces termes-là. Alors, il y a trois questions qui vont traverser mon exposé. La première, c'est, si vous voulez, je vais prendre prétexte de ce développement technologique là, qu'on appelle le Web 2.0, ou que moi j'aime mieux appeler le Web collaboratif ou le Web participatif. Mm-hmm. Donc la première question, c'est en fait la suivante. Comment est-ce que le Web participatif pourrait susciter un engagement citoyen chez les usagers? C'est-à-dire que ce dispositif, dans le fond, web, c'est un dispositif qui est associé, je dirais, a priori, avec le monde du divertissement. Et donc, ce qui m'intéresse comme question, je dirais, transversale et au-delà de la conférence d'aujourd'hui, mais c'est une question de recherche que j'ai le goût d'explorer dans un éventuel prochain programme de recherche, c'est vraiment essayer de voir le passage, donc, entre... l'univers du divertissement et un certain univers civique ou univers de la citoyenneté. Ou comment donc si vous voulez, ça c'est une question qui m'intéresse. La deuxième question, c'est je vais m'arrêter un petit peu sur ce phénomène là des communautés numériques. Je ne sais pas trop comment les appeler. Donc, j'ai publié l'an dernier un ouvrage qui s'appelle Communauté virtuelle, ce qui fait lien. Attendez, non, je me souviens plus du titre du livre.
Qui l'a lu?
Communauté virtuelle, agir et penser en réseau. Voilà, ah, ça voilà. C'est le titre du bouquin. Et donc, j'avais décidé d'appeler cette chose, pour moi, ce sont des collectifs d'usagers en ligne. Oui. C'est ça qui est le point de départ. Et évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure... les membres de ce collectif d'usagers en ligne vont s'auto-désigner comme communauté. Voyez-vous, ça, c'est plus une problématique sociologique. Mais finalement, pour des raisons, je dirais, quasiment de marketing, finalement, j'ai préféré appeler le livre, j'étais quand même pas pour appeler ça collectif d'usagers en ligne, en fait, communauté virtuelle. Bon. Maintenant, là, aujourd'hui, je vais utiliser plus l'expression communauté numérique pour désigner ces entités sur lesquelles je reviendrai. Donc, la question, c'est quel rôle est-ce qu'on peut attribuer à ces communautés numériques dans ce processus d'engagement civique dont je parlais dans la première question? Et je terminerai avec des questions relatives à une éthique de l'information, où là je vais reconnecter finalement avec la problématique du cycle de conférences. En fait, je me sens assez en résonance avec la conférence, la dernière conférence, surtout la première partie. La deuxième partie, c'est plus philosophique, mais la première partie où une réflexion sur la technologie
tout à fait.
Et la confiance, là, c'est, si vous voulez, c'est tout à fait dans le prolongement. Donc, si vous voulez, le sommaire de mon exposé, et là, je suis très à l'aise parce que finalement, au lieu d'avoir 20 minutes, j'en ai 40. Donc, mais quand même, 5 minutes avant le moment où tu aimerais que ça se termine, tu m'avertiras parce que sinon...
Oui, bien sûr.
Donc, une petite intro sur le temps de l'incertitude informationnelle. Jusqu'à ce matin, j'appelais ça le temps de l'insécurité informationnelle. Et puis finalement, en révisant mes notes, j'ai préféré parler d'incertitude informationnelle. Mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais si vous voulez, je vais faire une équivalence entre cette question de l'incertitude et la question de l'hypermédiatisation, la question de la surinformation, la surcharge cognitive, en fait. C'est un petit peu de ça que... Mais ça, c'est un petit peu, si vous voulez, le contexte. Bon, je vais parler donc d'usage 2.0, d'hypermédiatisation, de la banalisation de ces usages, et la question donc qui m'anime, comment ces nouveaux médias, c'est-à-dire finalement les usages 2.0, peuvent-ils susciter un engagement citoyen? Et là, par deux pistes, je vais ouvrir deux pistes, en fond, la piste des communautés numériques, et là, ça connecte avec, si vous voulez, le sens de mon titre, c'est-à-dire la communauté, je dirais, comme refuge, finalement, comme ce qui fait lien dans ce temps d'incertitude. Et avec, si vous voulez, mon propos sur les communautés numériques, c'est qu'il y a une fondamentale ambivalence, finalement. Donc, c'est pas un lieu simple. Et donc, il y a émergence de conscience identitaire partielle, mais ça, j'en parlais pas beaucoup. Mais je veux parler un petit peu plus des engagements partiels. Liés aux communautés numériques. Et la deuxième piste que je vais ouvrir, qui là recouvre davantage, je dirais, les travaux ethnographiques que je mène avec mon équipe. Donc, j'appelle ça un nouveau type de militance. Donc, si vous voulez, ce dispositif accompagne, je vais faire attention de ne pas tomber dans un déterminisme technique, donc ce type de dispositif accompagne un certain type de militance, des militances informationnelles. Je vais, si vous voulez, vous entretenir de trois de ces types de militances. Les activités qui mènent, dans le fond, à la problématique de la démocratie participative, le cyberjournalisme citoyen et l'activisme technique, où là, j'ai vraiment fait un travail ethnographique sur les activistes techniques, et donc je terminerai sur une question d'éthique. Donc, élément de contexte en termes d'incertitude informationnelle en regard donc de l'environnement médiatique. Donc, hypermédiatisation, donc ces usages, mais je pense que j'ai une autre slide sur les usages 2.0. Donc, simplement, c'est que Ce que je veux souligner, c'est que on est dans un état généralisé de surinformation. Et surinformation, donc accroissement exponentiel des informations disponibles pour l'individu et pour la collectivité. Donc, on est dans cette problématique du trop. On est dans le trop. Et les Américains appellent ça le « information overload », donc la surcharge cognitive. Les personnes sont incapables de traiter, enfin un certain nombre d'entre nous, en particulier les profs d'université, on est incapable de traiter la totalité des informations qu'on reçoit. Je regarde, dès que je m'éloigne de mon mail pour 3 jours, j'en reçois 100 par jour, donc si je m'éloigne de mon mail pendant 4 jours, je reviens 400 mails. Et là-dessus, il y en a presque la moitié où il faut que je réponde. C'est complètement fou. Donc, si vous voulez, mais plus généralement, au niveau de l'ensemble, je dirais, des médias, donc Internet étant dans cet environnement médiatique, mais la télévision étant toujours là et de façon très importante, ça coïncide avec ce que j'appellerais une désorientation des publics. Et comme dit Gitlin, « The message is, there is no message ». Et donc, si vous voulez, on est dans une problématique de manque de repères, de manque de... Je me souviens de Abraham Moles, en fait, qui parlait à un moment donné, qui comparait finalement culture humaniste et culture mosaïque. Et c'était bien avant Internet. Et en fait, il disait, dans le fond, dans la culture humaniste, on fonctionne en arborescence. Donc, on décide c'est ça ou ça. Et si c'est ça, c'est ça ou ça. Et ça. Bon. Alors que... Quand on est dans une culture contemporaine mosaïque, on associe tout à fait au hasard. Donc, je me déplace et je suis confronté à certaines bribes d'informations et la minute, la seconde d'après avec d'autres bribes, etc. Ou un peu à l'image du flux télévisuel. Je dirais qu'on est de plus en plus dans ce contexte, dans le fond, de surcharge et de surinformation et donc de désorientation. Et donc, c'est un peu comme ça que je situais le sentiment d'insécurité dont je parlais au point de départ. Je vais, pense que je vais passer par-dessus celle-là parce que ça va m'éloigner de mon... Donc, c'est une autre façon de définir l'incertitude informationnelle. Donc, si vous voulez, on va se concentrer. Ce que je veux, c'est qu'on se concentre sur ces questions, dans le fond, de usage 2.0. Je disais, les outils du web 2.0, c'est-à-dire, grosso modo, tout ce qui concerne l'autopublication, donc, finalement, tous les phénomènes de blog, la constitution de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est assez marrant parce que l'expression réseaux sociaux, c'est comme déplacé. Jusqu'ici, on était dans un univers d'analyse des réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, on en parle pour ce qui est constitué par les sites, à travers les sites, que ce soit MySpace, YouTube, Flickr et d'autres. Donc, si vous voulez, de quoi s'agit-il? Je pense que la proposition centrale, quand on veut, si on me demande, mettons, qu'est-ce que c'est le Web 2.0 en un mot, là, si vous voulez, ce sont les utilisateurs qui deviennent des producteurs de contenu. Donc, l'utilisateur peut aller porter un contenu, une image, un texte, une photo, une vidéo, sur un site. Donc, on parle de contenu généré par les utilisateurs, UGC, User Generated Content. Donc, je viens de terminer un rapport pour le ministère du patrimoine canadien sur les UGC. Donc, éventuellement, il sera en ligne dès que le ministère nous accorde la possibilité. Donc, alors, du point de vue, donc, toujours pour essayer de décrire qu'est-ce que c'est que le 2.0, donc, du point de vue, donc, de, comme disent les Français, du business model, c'est-à-dire que, dans le fond, le business model du 2.0, c'est que les fameux contenus qui sont postés par les producteurs, par les utilisateurs, donc ces contenus-là, finalement, sont agrégés par ceux qui détiennent les sites. Et il y a constitution, par agrégation, il y a une constitution d'un patrimoine. Et ce patrimoine, finalement, va être vendu, loué, utilisé par l'entreprise qui possède le site. En d'autres mots, les utilisateurs vont être à la source de la plus-value des entreprises. Donc, c'est la deuxième caractéristique, dans le fond, du Web 2.0. Une fois qu'on a dit qu'ils étaient des producteurs de contenu, eh bien, ils sont aussi, du fait de ces pôles d'agrégation, ils sont à la source de la plus-value des entreprises. Un exemple simple, on est tous allés plus ou moins sur Amazon, on voit dans le fond les témoignages d'acheteurs, finalement, en disant « oui, moi j'ai aimé, je n'ai pas aimé », etc. Donc on voit que, finalement, le jugement des personnes ordinaires va finalement être à la source de ce qui va faire, finalement, le fonds de commerce de l'entreprise. Donc, on est devant la multiplication de ces collectifs d'usagers en ligne que l'on appelle de façon plus ou moins pertinente des communautés. Alors, quand je dis banalisation des usages 2.0, ça veut dire finalement qu'on assiste à l'avènement d'un nouveau type de médias de communication de masse. Ce sont les médias individuels de communication de masse. Donc, si vous voulez, chaque individu devient, devient un petit réseau télé, s'il le veut, ou devient une petite boîte de production de n'importe quoi, en fait, donc, à partir de... avec des moyens très, très faibles. Mais évidemment, il y a, grosso modo, une asymétrie, j'en suis très conscient, mais il y a toujours la possibilité, finalement, d'avoir ces 10 minutes de gloire, en fait, comme dirait Warhol. Donc, par les processus de peering, d'autopublication, de blog, de social networking, de tous ces fils RSS qui produisent une intertextualité, finalement, pour reprendre une notion qu'on avait développée à l'occasion d'analyse de la programmation télé. Donc, tout ça, ça produit cette fameuse blogosphère, mais qui n'est pas du tout homogène, qui est extrêmement hétérogène. On a des journaux personnels, des blogs politiques critiques, des blogs de politiciens, de journalistes qui sont liés à leur institution ou pas, etc. Bon, donc, interaction contradictoire, comme l'a développé mon collègue Pellissier, là, entre la blogosphère et les médias traditionnels, des relations de fascination, d'ignorance mutuelle, de défiance, d'hostilité, de cohabitation obligée, de collaboration active. Donc, de plus en plus, on voit que finalement, ce duel blogosphère-média traditionnel, finalement, est en train d'amener de nouvelles formes de collaboration. Et ça pose des problèmes pour le journalisme et en termes de qualité de l'information. Et je reviendrai sur ça en conclusion avec mes propos d'éthique. Donc, si vous voulez, première piste pour essayer d'amener des éléments de réponse à ma question, en quoi ce dispositif qu'on appelle le web participatif peut, dans le fond, accompagner un engagement citoyen. Mais première piste, bon, c'est la fameuse communauté numérique. Donc, si vous voulez, communauté numérique, peut-être trois éléments pour commencer à saisir un peu de quoi il s'agit. Donc, si vous voulez, la notion de communauté classique, c'est celle, dans le fond, de Tonies, où effectivement, là, il met de l'avant, Tonies, donc, va mettre de l'avant la notion de proximité géographique, proximité émotionnelle, interaction directe, concrète, authentique entre les membres. Donc, évidemment, le contexte de la réflexion de Tonies, de Tonies, je ne sais pas trop comment prononcer, mais le contexte était de l'avènement de la société industrielle, finalement, donc l'apparition d'une nouvelle forme qu'on va désigner par société comparativement à la forme précédente, plus pré-industrielle, la forme communautaire. Donc, on voit qu'avec ce qu'on appelle la communauté numérique, on voit qu'il y a, en tout cas, non nécessité d'ancrage géographique. Donc, déjà, c'est en contradiction avec la notion de communauté classique. Et puis, il n'y a pas non plus nécessité d'interaction physique entre les membres. Quoi qu'on voit des gens qui se fréquentent par ailleurs. Donc, ils passent, si vous voulez, des travaux de Wellman, en fait, portent beaucoup là-dessus, sur le passage des zones dites virtuelles aux zones dites présentielles. Enfin, j'ai horreur de cette expression. Et donc, si vous voulez, pour pousser plus avant là, cette notion, pour essayer de saisir un peu qu'est-ce que c'est que la communauté numérique, donc je fais le détour par un travail que j'ai fait avec mon assistant Guillaume Latrotop sur la notion de virtualité. Donc, on a fait... Donc, ça, vous trouvez ça en ligne. Si vous tapez, je pense que c'est le virtuel comme catégorie pour penser le social. Vous allez trouver ce texte, finalement, où on a fait une espèce de analyse d'une centaine de textes de sociologie et de philosophie pour essayer de voir qu'est-ce qu'on mettait en dessous de l'adjectif virtuel. Et grosso modo, si vous voulez, on est face à une typologie, trois manières de penser la virtualité. Donc, la première manière, en fait, c'est la manière, disons, très critique, c'est de dire, dans le fond, ce n'est qu'un facsimilé, ce n'est qu'une représentation du réel, c'est une représentation, c'est un facsimilé dégradé du réel. Donc, on voit, ça, c'est comme la perspective critique qui va opposer virtuel et réel. La deuxième perspective, bien, c'est la symétrique inverse. Ça serait, à la limite, on pourrait dire Pierre Lévy pourrait se situer dans cette seconde figure. C'est-à-dire, dans le fond, l'amplification libératrice du réel. C'est-à-dire que finalement, dans le virtuel, on peut se dégager finalement de tout ce qui est, de tout ce qui est finalement qui nous pèse, en fait. Donc finalement, c'est un lieu, donc ça ne pèse plus on est dans une zone finalement de libération. Et une troisième perspective qui va carburer notamment à Deleuze, donc qui va opposer plus l'actuel finalement et le virtuel plutôt que le réel et le virtuel, et qui conduit donc à cette position qu'on a décrite dans notre article comme celle d'une hybridation réelle-virtuelle, où finalement cette zone dite virtuelle est un lieu d'expérimentation d'une nouvelle réalité, une source de création culturelle. Donc là, si vous voulez, je pense qu'on s'approche un peu de ce qu'on peut mettre aussi en dessous de l'expression communauté numérique. Donc lieu d'expérimentation, et je connecte avec finalement ce que disait Weisberg sur finalement, Jean-Louis Weisberg, sur finalement la question de qu'est-ce qui est réel, comment je fais confiance, pour revenir à la question de la confiance, comment je fais confiance dans le fond à ma perception du réel. Alors, Weisberg dit dans le fond, à l'ère de la télévision, à l'ère de la photographie et de la télévision, c'était je l'ai vu, donc c'est vrai. Et maintenant, dans les zones de virtualité dans lesquelles nous sommes, ça ne tient plus, parce que la plupart des gens sont au fait qu'on peut très bien manipuler les images et finalement, c'est pas parce qu'on l'a vu que c'est vrai. Et donc, on s'en va vers, nous dit Weisberg, vers une logique où on dit « je l'ai expérimenté, donc c'est vrai ». Dernier point sur l'idée de communauté, c'est que j'ai retrouvé ça chez un auteur des Cultural Studies, là, Raymond Williams, donc que cette idée de communauté, finalement, il nous dit, elle est rarement connotée négativement. C'est-à-dire que finalement, c'est bien. Communauté, c'est bien. Société, c'est moins bien. Communauté, c'est bien. Bon, enfin, bref, on pourrait rester longtemps là-dessus. Alors, donc, si vous voulez, évidemment, on peut faire une critique de la notion de communauté telle qu'elle est utilisée pour désigner ces collectifs d'usagers en ligne, qui sont plus souvent des agrégats éphémères, des micro-clubs, si vous voulez, formés autour d'intérêts de micro-dimensions. Donc, si vous voulez, on est intéressé par tel type de papillon, et on va se réunir à l'échelle de la planète, où on va être 24 intéressés par tel type de papillon. Donc si vous voulez, on est dans ce qu'on pourrait appeler des adhésions partielles à des domaines, finalement, de la vie. Et évidemment, ça peut renvoyer, dans le fond, à des grands domaines comme la consommation, la citoyenneté, les associations. Donc, l'autre jour, j'étais dans un panel avec Thierry Barnes, et il posait la question, finalement, du nous qui est constitué par ce type d'adhésion à travers, finalement, les communautés, ces communautés numériques extrêmement parcellisées. Donc, je dirais, comment est-ce que ces assemblages de semblables parcellisés composent-ils avec l'existence de l'autre, avec la différence? Et un élément de réponse, ça serait que l'identité, je vais la qualifier d'hypermoderne, donc l'identité hypermoderne, serait constituée d'une constellation de sources multiples d'identification. Donc, identité et identification. Donc l'identité, c'est une série, une constellation d'identification. Et donc, effectivement, ça pourrait peut-être effectivement nous amener à expliquer en partie, enfin, à répondre en partie à cette question de la constitution du « nous » vis-à-vis de l'autre. Et là, ça me permet de terminer sur les communautés numériques pour arriver tranquillement à la question des militances, en disant que ces dispositifs-là, dans le fond, renouvellent un intérêt pour la vie collective. Donc, un réengagement dans la société. Donc, si vous voulez, ce dispositif-là va nous inviter à participer à des discussions, à expliciter nos arguments. Et contradictoirement, et ça, c'est une idée développée par Alain Main dans un petit papier sur les les communautés virtuelles. Donc, contradictoirement, les communautés numériques suscitent un type de démocratie très particulier, une démocratie d'opinion, donc, et un goût de l'immédiateté. Donc, et ça nie en quelque sorte les principes d'une démocratie représentative. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait favoriser un certain populisme. Et là, il y a des ingrédients là, sur lesquels je reviendrai en conclusion sur les questions, les dimensions éthiques. Et c'est grosso modo parce que, ultimement, si vous voulez, ce qui est en jeu, je dirais, dans le web participatif, c'est le fait que on s'ouvre à un appel au plus grand nombre, par opposition à toute la logique dans laquelle on était jusque-là, qui était la logique de l'autorité de l'expert. Donc, si vous voulez, une des grandes trames sur lesquelles je reviendrai en conclusion, c'est effectivement, dans le fond, le statut de l'expert dans cette problématique-là, vis-à-vis ces logiques que certains appellent la logique du crowdsourcing. Donc, on va chercher dans la foule, on va chercher dans le plus grand nombre, on essaie d'accumuler finalement des opinions, mais est-ce que c'est la bonne manière, dans le fond? Donc, c'est ça que ça pose dans le Web 2.0. Et là, je pense qu'on est dans la problématique de la confiance et la gouvernance. Donc, même dit, dans le fond, ces communautés numériques renforcent l'émiettement de l'individu moderne dans une société de conflits pluriels. Et j'ouvre donc la deuxième piste, celle des nouvelles militances. Donc, les dispositifs numériques, qui sont des dispositifs donc, qui appellent à la coopération, à la collaboration, accompagnent donc des nouveaux types d'engagement citoyen. Donc, des exemples, évidemment, tout le mouvement altermondialiste n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu tous ces dispositifs Internet finalement, qui ont permis la connexion à l'échelle mondiale, finalement, et le rassemblement dans les forums sociaux mondiaux. Et Dominique Cardon, par exemple, a fait des études sur... Dominique Cardon et Christian Guiton ont fait des études sur les dispositifs qui ont été mis en place dans les forums sociaux mondiaux pour faire en sorte que la parole circule. Et évidemment, qu'il y ait production de consensus, qu'il y ait de débat, etc. Mais en même temps, avec, je dirais, une certaine... ils sont critiques aussi face à ce qui a été mis en place. Mais on voit que ces dispositifs-là ont permis, finalement, la réalisation d'un certain nombre de types de militances qu'on n'aurait peut-être pas vu s'il n'y avait pas eu ça, des militances à l'échelle internationale. Et dernier exemple, la militance autour des campagnes présidentielles, donc en fond, tout l'univers Internet qui est apparu comme de plus en plus important en fait, pour les campagnes présidentielles. Donc, cette idée de démocratie participative, évidemment qu'en France, on a associé beaucoup à Ségolène Royal, mais qui était déjà là comme fondement, dans le fond, de ce type de dispositif. Et donc, évidemment, ça pose la question de est-ce que on est devant une authentique démocratie ou est-ce qu'on est encore là devant simplement des compilations d'opinions spontanées. Deuxième type de militance, c'est autour de ce qu'on appelle le cyberjournalisme citoyen. Donc, les pratiques de diffusion et de traitement d'informations, informations de type journalistique, par des internautes qui utilisent les outils 2.0. Donc, on va, si vous voulez, de simples utilisateurs vont participer de façon coopérative à la publication en ligne, au traitement d'une information de type journalistique. Donc, si vous voulez, le simple utilisateur va passer d'un statut de lecteur à celui de rédacteur, éventuellement de commentateur d'événements. Évidemment, ça pose la question de, qu'est-ce qu'on veut dire par l'expression citoyen quand on dit journalisme, cyberjournalisme citoyen, parce que ça peut être, disons qu'il y a vraiment, et on a fait, dans le cadre de l'étude qu'on a fait pour le patrimoine canadien, on a fait une série d'enquêtes auprès d'un certain nombre de sites, là, je ne peux pas développer plus que ça là-dessus, mais éventuellement, vous pourrez référer au document. Là, et, et on voit que, si vous voulez, parfois, c'est simplement l'expression des personnes ordinaires, dans le fond, à côté de celle des journalistes. Donc c'est comme si on donne la parole à des gens ordinaires et finalement qui participent finalement à la production de publications. Et dans d'autres moments, je dirais, où il y a une force politique plus forte, là, ça s'inscrit dans, je dirais, le prolongement des médias alternatifs. Donc, c'est l'idée d'une véritable prise de parole, dans le fond, par des personnes ordinaires. Donc, si vous voulez, on a une posture où ces nouveaux médias sont simplement un complément aux médias traditionnels. On a une autre posture où ces médias sont une alternative, finalement, aux autres. Donc, il me reste combien de temps?
Il reste 5-10 minutes. Tu peux aller
jusqu'à 5-10 minutes. Alors, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, comme on sait que l'existence politique des acteurs sociaux est subordonnée à leur visibilité médiatique, si un acteur politique n'existe pas médiatiquement, il risque, dans le fond, de passer à côté. Donc, on voit que, disons, cette visibilité médiatique était contrôlée jusqu'ici par les grands médias, les grands réseaux. Et donc, cette émergence, dans le fond, du web participatif fait qu'on est devant des nouveaux mécanismes de mise en visibilité des acteurs et ça peut être intéressant politiquement. Alors, je pense que je vais sauter là-dessus parce que si je veux rester dans les temps, et je préfère me réserver pour les questions de la fin. Et donc, simplement, troisième type de militance, donc ce que j'ai appelé l'activisme technique, donc c'est-à-dire, dans le fond, des gestes de politisation. Donc, par politisation, j'entends, on inscrit une dimension politique dans un lieu ou dans un objet, dans un dispositif. Et c'est une inscription. La façon dont moi je définis la politisation, c'est que c'est une inscription par les acteurs. Donc ce n'est pas l'observateur qui dit « Ah, ça c'est une politisation », mais c'est les acteurs eux-mêmes qui politisent, si vous voulez. Donc les activistes de la technique, en fait, ils politisent la technique. Ils politisent, dans le fond, et questionnent collectivement les orientations qu'on donne à la technique. Et donc, cette slide-là est l'aboutissement d'un travail d'ethnographie qu'on a fait sur un certain nombre de groupes d'activistes, un groupe autour du logiciel libre, un groupe autour de Wi-Fi, c'est-à-dire dans le fond de Wi-Fi libre et gratuit. Donc, un groupe qui pose des Wi-Fi comme ça dans la ville pour faire en sorte que Internet au débit devienne gratuit un peu partout. Et bon, ça, c'est le type de groupe, ce que j'appelle les activistes. Et en fait, bon, je ne vais pas avoir le temps de détailler ça, je passerai une heure là-dessus. Mais simplement, je vais simplement mettre de l'avant, parce qu'ici, ce que je fais, c'est que je compare des groupes qu'on appelle au Québec des groupes communautaires, mais ici, on dirait des groupes associatifs. Donc, je compare des groupes associatifs plus traditionnels avec ces nouveaux groupes activistes. Et un des éléments de différence le plus intéressant, c'est que du côté des groupes traditionnels, la technologie est perçue comme un outil au service d'un projet. Alors que du côté des activistes de la technique, la technologie est perçue comme une culture. Donc, et ça va m'amener finalement à un questionnement de la fin. Donc, j'arrive avec mes dernières slides là, sur l'éthique de l'information est nécessaire et je vais revenir sur ce que je disais. Donc, si vous voulez, à partir du travail que j'ai essayé de faire dans le fil de la conversation d'aujourd'hui, je dirais qu'il y a un certain nombre d'enjeux pour une éthique de l'information finalement qui émerge. Donc, un premier enjeu autour du contrôle de la qualité de l'information. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on fait une ouverture aux amateurs, si vous voulez, par rapport, par exemple, aux journalistes professionnels. Donc, contexte de participation des amateurs. Donc, si vous voulez, ça pose la question de la crédibilité des sources. La question de la validation, je vais revenir avec le deuxième enjeu. Donc, deuxième enjeu autour de la question de l'expertise, statut de l'expert, autorité de l'expert. Donc, j'ai assisté il y a quelques jours à un colloque autour du phénomène Wikipédia. Et Wikipédia, donc, c'est une encyclopédie qui cherche finalement à développer ses contenus uniquement à partir des contributions de tous ceux qui veulent contribuer. Donc, voyez-vous qu'on a un problème majeur de validation, de fond. Qu'est-ce qui fait qu'un contenu, qu'est-ce qui fait qu'on peut être sûr que ce contenu, c'est pas de la foutaise, que c'est pas de la désinformation, etc. Donc, en tout cas, ça a été deux jours de discussion passionnante autour de ces questions de validation. Et on voit que le modèle, finalement, de l'encyclopédie classique, qui est l'encyclopédie où les articles sont validés par des comités d'experts, bien là, on essaie de trouver une alternative, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, pour moi, il y a un deuxième enjeu éthique qui est autour, dans le fond, de l'autorité de l'expertise, qui est remise en cause par ces expériences du web participatif. Finalement, un troisième enjeu autour de la responsabilité juridique et morale à l'égard de l'information diffusée. Et on le voit, il y a plusieurs cas finalement qui sont traités où on voit est-ce que c'est l'auteur, est-ce que c'est le site, est-ce que c'est les opérateurs finalement qui sont en dessous, etc. Donc il y a tout un. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits par les experts juridiques sur ces questions-là. Et dernier point, et là je connecte avec mes activistes de la technique. C'est un enjeu éthique autour des choix techniques. C'est-à-dire que finalement, les choix techniques, par exemple, les choix liés à des architectures de réseau plutôt qu'à d'autres, ou des choix liés à la conception de dispositifs techniques plutôt que d'autres, eh bien, comportent une dimension éthique. Les choix techniques comportent une dimension éthique. Donc, Laurence Lessig est quelqu'un qui travaille énormément sur ces questions. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Code. Enfin, il y a plusieurs ouvrages, mais son plus célèbre, c'est Code. Et il vient de refaire une nouvelle édition, Code 2.0. donc, en 2007. Et donc, effectivement... oui, ben, peut-être que je répondrai aux questions parce que là, ça va tout m'éloigner. Et disons que je vais terminer avec, finalement... une dernière slide pour essayer de mettre en contexte l'ensemble de mes propos, c'est-à-dire dans le fond je dirais ces militances finalement informationnelles contribuent, je dirais, à mettre de l'avant une certaine confrontation idéologique entre deux projets de cette société que l'on appelle société de l'information. Parce qu'il faut bien voir que société de l'information, c'est une vision, c'est un horizon, c'est une métaphore. Donc, je viens justement de publier un article dans la revue Communication et langage, où je fais l'histoire de la métaphore de la société d'information. Mais là, ici, je veux mettre de l'avant, finalement, le fait que on est souvent mis devant, je dirais, un modèle top-down de la société d'information, que après... Armand Matelard, j'appellerais la société globale de l'information. Donc, c'est le modèle qui nous est proposé, je dirais, fortement par les gouvernements nationaux, les organisations internationales, la communauté européenne, les grandes industries. C'est arrimé au néolibéralisme et à la globalisation. Et depuis, notamment, le sommet sur la suite de l'information à Tunis 2005, je dirais... une vision alternative émerge, une vision bottom-up, une vision de cette société informationnelle en termes de réseau de savoir partagé. C'est la vision proposée par ce que l'économiste Eli Noam a appelé les leaders politiques de l'Internet. En disant, dans le fond, il y a eu trois vagues de leaders dans l'Internet. Il y a eu les premiers qui étaient establishment militaire et hacker, les deuxièmes, le marché, et maintenant émergent ces activistes politiques de l'Internet, en fait. Et donc, on est devant, finalement, la proposition d'une alternative à la vision de la société d'information qui nous est proposée top-down, une vision bottom-up, une vision en termes d'échange, de partage des savoirs dans une pluralité de populations affirmant sa diversité culturelle. Voilà, merci.
Merci beaucoup.